Bonjour Stéphanie.
Oui, bonjour.
Dominique Huette, enchantée de vous avoir au téléphone.
Écoutez, moi aussi.
Bon.
Ouais, tout à fait, parce que vraiment, en fait, quand j'ai connu l'histoire, ça fait un très long moment que j'apprécie la compagnie La Lune Rousse.
Ah.
Et notamment, en fait, quand tout ce qu'ils font, les histoires au bout du fil, les contes à part, leurs bêtes de scène, et vraiment, c'est extraordinaire ce qu'ils font.
Ah super, bah voilà, vous suivez bien donc la compagnie.
Oui, bon. Tout à fait.
Bah, ça fait très plaisir. Bah, on se connaît pas encore, nous. Alors moi, je suis Dominique Huette, je suis comédien lecteur. C'est dans l'équipe d'Histoire au bout du fil, il y a des chanteurs, il y a des conteurs, il y a des lecteurs. Moi, je fais partie des lecteurs. Voilà. Alors, c'est un rendez-vous un tout petit peu particulier aujourd'hui, puisqu'on est seul au téléphone, mais qu'il y a des oreilles en plus, puisqu'on est en direct sur Jet FM. Voilà.
Tout
mais
à fait.
Ça ne change pas grand-chose.
Non.
Voilà. Donc, on est sur la thématique de la peur pour les nuits de la lecture. Et donc moi je vous ai sélectionné deux textes, vous allez voir, je suis pas sûr qu'ils vous fassent très très peur, mais ils parlent de la peur quand même, voilà.
Bon,
est-ce que vous m'entendez bien déjà?
Oui, tout à fait, là okay. Je vous entends vraiment bien, c'est parfait.
Et est-ce que vous êtes bien installé pour pouvoir écouter?
Super. Je suis dans mon canapé là.
Ah bah c'est parfait, c'est parfait. Eh bien, je vais commencer alors par un texte un peu classique, on va dire, un texte de Dino Buzzati, que vous connaissez peut-être.
Oui.
C'est extrait du cas, et ça s'appelle « Douce nuit ».
D'accord, voilà. Bon. Bah, écoutez, je vous écoute.
Super, on y va. Elle eut, dans son sommeil, un faible gémissement. À la tête de l'autre lit, assis sur le divan, il lisait, à la lumière concentrée d'une petite lampe. Il leva les yeux. Elle eut un léger frémissement, secoua la tête comme pour se libérer de quelque chose, ouvrit les paupières et fixa l'homme, avec une expression de stupeur, comme si elle le voyait pour la première fois. Et puis, elle eut un léger sourire. « Qu'y a-t-il, chérie ?»« Rien, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens une espèce d'angoisse, d'inquiétude. »« Tu es un peu fatigué du voyage. Chaque fois, c'est la même chose. Et puis, tu as un peu de fièvre. Ne t'inquiète pas, demain, ça sera passé. » Elle se tut pendant quelques secondes, en le fixant toujours, les yeux grands ouverts. Pour eux qui venaient de la ville, le silence de la vieille maison de campagne était vraiment exagéré. Un tel bloc hermétique de silence qu'il semblait qu'une attente y fût cachée, comme si les murs, les poutres, les meubles, tout retenait leur respiration. Et puis elle dit, paisible, « Carlo, qu'y a-t-il dans le jardin ?»« Dans le jardin ?»« Carlo, je t'en prie, puisque tu es encore debout, est-ce que tu ne voudrais pas jeter un coup d'œil dehors ? J'ai comme la sensation qu'il y a quelqu'un ? Quelle idée ! Qui veux-tu qu'il y ait dans le jardin en ce moment ? Les voleurs ? Ils ont mieux à faire, les voleurs, que de venir rôder autour de vieilles bicoques comme celle-ci. Oh, je t'en prie, Carlo, va jeter un coup d'œil. » Il se leva, ouvrit la fenêtre et les volets, regarda dehors, resta stupéfait. Il y avait eu de l'orage l'après-midi, et maintenant, dans une atmosphère d'une incroyable pureté, la lune sur son déclin éclairait de façon extraordinaire le jardin, immobile, désert et silencieux, parce que les grillons et les grenouilles faisaient justement partie du silence. C'était un jardin très simple, une pelouse bien plane, avec une petite allée aux cailloux blancs qui formait un cercle et rayonnait dans différentes directions. Sur les côtés seulement, il y avait une bordure de fleurs, mais c'était quand même le jardin de son enfance. Un morceau douloureux de sa vie, un symbole de la félicité perdue. Et toujours, dans les nuits de lune, il semblait lui parler, avec des illusions passionnées et indéchiffrables. Au levant, à contre-jour et sombre par conséquent, se dressait une barrière de charme taillée en arche, Au sud, une haie basse de buis. Au nord, l'escalier qui menait au potager, au couchant de la maison. Tout reposait de cette façon inspirée et merveilleuse avec laquelle la nature dort sous la lune et que personne n'est jamais parvenu à expliquer. Cependant, comme toujours, le spectacle de cette beauté expressive qu'on peut contempler, bien sûr, mais qu'on ne pourra jamais faire sienne, lui inspirait un découragement profond. Carlo, appela Maria de son lit, inquiète, en voyant qu'il restait immobile à regarder. Qui est là ? Il referma la fenêtre, laissant les volets ouverts, et il se retourna. Personne, ma chérie. Il y a une lune formidable. Je n'ai jamais vu une semblable paix. Il reprit son livre et retourna s'asseoir sur le divan. Il était 11h10. À ce moment précis, à l'extrémité sud-est du jardin, dans l'ombre projetée par les charmes, le couvercle d'une trappe dissimulée dans l'herbe commença à se soulever doucement, par à-coups, se déplaçant de côté et libérant l'ouverture d'une étroite galerie qui se perdait sous terre. D'un bond, un être trapu et noirâtre en déboucha et se mit à courir frénétiquement en zigzag. Suspendu à une tige, un bébé sauterelle reposait, heureux, son tendre abdomen vert palpitait gracieusement au rythme de sa respiration. Les crochets de l'araignée noire se plongèrent avec rage dans le thorax et le déchirèrent. Le petit corps se contorsionna, détendant ses longues pattes postérieures une seule fois. Déjà, les horribles crocs avaient arraché la tête et maintenant, ils fouillaient dans le ventre. Des morsures jaillit le suc abdominal que l'assassin se mit à lécher avidement. Tout à la volupté démoniaque de son repas, il n'aperçut pas à temps une gigantesque silhouette sombre qui s'approchait de lui par derrière. Serrant encore sa victime entre ses pattes, l'araignée noire disparut à jamais entre les mâchoires du crapaud. Mais tout, dans le jardin, était poésie et calme divin. Une seringue empoisonnée s'enfonça dans la pulpe tendre d'un escargot qui s'acheminait vers le jardin potager. Il réussit à parcourir encore 2 centimètres avec la tête qui lui tournait, et puis il s'aperçut que son pied ne lui obéissait plus, et il comprit qu'il était perdu. Bien que sa conscience fût obscurcie, il sentit les mandibules de la larve assaillante qui déchiquetait furieusement des morceaux de sa chair, creusant d'atroces cavernes dans son beau corps gras et élastique dont il était si fier. Dans la dernière palpitation de son ignominieuse agonie, il eut encore le temps de remarquer, avec une lueur de réconfort, que la larve maudite avait été harponnée par une araignée loup et lacérée en un éclair. Un peu plus loin, tendre idylle, avec sa lanterne allumée par intermittence au maximum, une luciole tournaillait autour de la lumière fixe d'une appétissante petite femelle, languissamment étendue sur une feuille. Oui ou non ? Oui ou non ? Il s'approcha d'elle, tenta une caresse, elle le laissa faire. L'orgasme de l'amour lui fit oublier à quel point un pré pouvait être infernal une nuit de lune. Au moment même où il embrassait sa compagne, un scarabée doré d'un seul coup l'éventra irrévocablement, le fendant de bout en bout. Son petit fanal continuait à palpiter, implorant oui ou non que son assaillant l'avait déjà à moitié englouti. À ce moment-là, il y eut un tumulte sauvage à un demi-mètre de distance à peine, mais tout se régla en quelques secondes. Quelque chose d'énorme et de doux tomba comme la foudre d'en haut. Le crapaud sentit un souffle fatal dans son dos. Il chercha à se retourner, mais il se balançait déjà dans l'air entre les serres d'un vieux hibou. En regardant, on ne voyait rien. Tout dans le jardin était poésie et divine tranquillité. La kermesse de la mort avait commencé au crépuscule. Maintenant, elle était au paroxysme de la frénésie et elle continuerait jusqu'à l'aube. Partout, ce n'était que massacre, supplice, tuerie. Des scalpels défonçaient des crânes, des crochets brisaient des jambes, fouillaient dans les viscères, Des tenailles soulevaient les écailles, des poinçons s'enfonçaient, des dents trituraient, des aiguilles inoculaient des poisons et des anesthésiques, des filets emprisonnaient, des sucs érosifs liquéfiaient des esclaves encore vivants. Depuis les minuscules habitants des mousses, les rotifères, les tardigrades, les amibes, les técamibes, jusqu'aux larves, aux araignées, aux scarabées, aux mille pattes, oui, oui, jusqu'aux orvets, aux scorpions, aux crapauds, aux taupes, aux hiboux. L'armée sans fin des assassins de grand chemin se déchaînait dans le carnage, tuant, torturant, déchirant, éventrant, dévorant. Comme si, dans une grande ville, chaque nuit, des dizaines de milliers de malandrins assoiffés de sang et armés jusqu'aux dents sortaient de leurs tanières, pénétraient dans les maisons et égorgeaient les gens pendant leur sommeil. Là-bas, dans le fond, le Caruso des Grillons vient de se taire à l'improviste, gobé méchamment par une taupe. Près de la haie, la petite lampe de la luciole broyée par la dent d'un scarabée s'éteint. Le chant de la rainette étouffé par une couleuvre devient un sanglot. Et le petit papillon ne revient plus battre contre les vitres de la fenêtre éclairée. Les ailes douloureusement froissées, il se contorsionne, prisonnier dans l'estomac d'une chauve-souris. Terreur, angoisse, déchirement, agonie, mort pour mille et mille autres créatures de Dieu. Voilà ce qu'est le sommeil nocturne d'un jardin de 30 mètres sur 20. Et c'est la même chose dans la campagne environnante. Et c'est toujours la même chose au-delà des montagnes aux reflets vitreux sous la lune, pâle et mystérieuse. Et dans le monde entier, c'est la même chose. Partout, à peine descend la nuit, extermination, anéantissement et carnage. Et quand la nuit se dissipe et que le soleil apparaît, un autre carnage commence, avec d'autres assassins de grand chemin, mais d'une égale férocité. Il en a toujours été ainsi depuis l'origine des temps. Et il en sera de même pendant des siècles, jusqu'à la fin du monde. Maria s'agite dans son lit, avec de petits grognements incompréhensibles. Et puis de nouveau, elle écarquille les yeux, épouvantée. Carlo, ne manque pas de moi, j'ai encore cette étrange sensation, je ne sais pas moi. C'est comme si dehors dans le jardin, il se passait quelque chose. Qu'est-ce que tu vas penser là ? Ne me dis pas non, Carlo, je t'en prie. Je voudrais tant que tu donnes un coup d'œil dehors. Il secoue la tête et sourit. Il se lève, ouvre la fenêtre et regarde. Le monde repose dans une immense quiétude, inondée par la lumière de la lune. Encore cette sensation d'enchantement, encore cette mystérieuse langueur. Dors tranquille, mon amour. Il n'y a pas âme qui vive dehors. Je n'ai jamais vu une telle paix. Voilà, c'était Dino Buzzati, Douce Nuit. Ça va ?
Oh, écoutez, c'est extraordinaire parce que, en fait, compte, j'ai un jardin potager.
Oui.
Et en fait, quand j'ai plein de petites bêtes et toutes les petites bêtes que vous avez mentionnées, le scarabée, l'araignée, le hibou, l'orvet, les grillons et tout ça, en fait, quand je les ai dans mon jardin.
Eh bien voilà, eh bien, ils ne sont pas tous très sympathiques les uns avec les autres, mais c'est la nature.
Oui, mais bon, c'est... oui, oui, oui. en fait, moi, je m'aperçois que dans mon potager, il y a énormément de petites bêtes et c'est vrai que bon, c'est pas très facile les uns et les autres. Il y en a qui se font manger, bien sûr. Il y en a ouais.
Ben oui.
c'est un test qui est très très beau. Hein.
Oh, oui. Bah ben oui, Buzzati, oui, c'est voilà. Moi j'aime beaucoup toujours. Voilà, je voulais vous le partager.
Ouais. Ah ouais, moi également. Hein. Ben. Vraiment, c'est magnifique.
Merci. Merci pour Buzzati. je vais enchaîner avec un autre texte, histoire de vous en lire deux quand même sur le créneau de 20 minutes qui nous est imparti. Des fois, on déborde Mais là, comme on est un petit peu à la radio et qu'il y aura voilà, un autre appel téléphonique derrière, je vais enchaîner un petit peu vite.
Allez-y.
Je vous emmène avec un autre texte. C'est sur une peur qui est tout autre et sur voilà, comment on lutte justement avec ce qui nous fait peur. C'est un texte qui est aussi bien pour les ados que pour les adultes, de Hélène Vignal, dans un livre qui s'appelle « Passer au rouge ». Voilà. Je vous emmène. C'est un texte un petit peu plus court.
Très bien.
Est-ce que vous êtes toujours prête ?
Oh oui.
On change complètement d'univers, vous allez voir. C'est parti. C'est parce qu'ils avaient pris un clown en otage. D'habitude, les images des infos ne me touchent pas. Mais là, c'était différent. Il y avait ce clown, avec ses habits de toutes les couleurs, ses chaussettes rayées dont une était descendue et on voyait sa jambe poilue, et puis son nez peint en rouge. C'était une vidéo comme toutes les vidéos d'otages. Une image pas très nette. Des types baraqués avec des cagoules, des fusils, les jambes écartées comme s'ils étaient sur un bateau instable. Le clown était assis par terre devant les types qui menaçaient de le tuer. Son maquillage avait un peu coulé, dérapé. Les ravisseurs l'avaient attrapé en plein spectacle, disait la voix off du journaliste. C'était un gars de clown sans frontières, qui était parti faire marrer les mômes dans les pays en guerre. Pendant que les revendications étaient lues pour sa libération, le clown semblait ne pas comprendre, comme s'il s'agissait d'un jeu nouveau. Il tournait la tête parfois, avec un gentil sourire. Il avait l'air de dire « Alors les copains, on joue à quoi ?» Mais aussitôt, un type lui remettait la tête en face de la caméra, brutalement, comme ça. Et le clown, il essayait de bien faire. Il faisait des accents circonflexes avec ses sourcils, des petits ronds étonnés avec sa bouche. Au début, j'ai rigolé des mimiques qu'il faisait, le clown. J'ai trouvé qu'il était ridicule. Et petit à petit, j'ai réalisé que sous le maquillage, il y avait un type qui devait avoir la trouille d'être exécuté. J'ai demandé à mon père pourquoi il continuait à faire le clown alors qu'il allait peut-être mourir. J'ai pensé qu'il devait se sentir très seul et qu'il nous appelait avec ses grimaces. J'ai demandé s'il avait peur, parce que moi, ces images me glaçaient le sang. Mon père m'a dit de bien regarder ce que faisait ce type, de ne jamais oublier ce que je voyais, qu'il n'avait jamais rien vu d'aussi courageux, d'aussi fort. On aurait dit qu'il avait les larmes aux yeux. Les images du clown otage sont passées en boucle à la télé toute la soirée. Pendant la nuit, j'ai rêvé que j'étais avec lui. Il y avait aussi James, Corentin, Olga, Teddy, Théodore et la prof d'allemand. On était tous pris en otage. On avait tous des nez rouges en mousse. J'avais peur. J'étais terrorisé parce qu'on devait jouer un spectacle qu'on n'avait pas eu le temps de répéter. Il fallait faire rire, sinon on nous fusillait. Toute la nuit, j'ai été ce clown en otage. Ça me réveillait. Je me rendormais et le cauchemar recommençait. Quand je me réveillais, je me souvenais que pour l'autre, le vrai, ça n'était pas un rêve, ni un cauchemar, mais que ça lui arrivait pour de vrai. Je me disais que peut-être il était déjà mort. Qu'est-ce que je pouvais faire contre ça ? À un moment, j'ai allumé la lumière. J'ai repris mes vieux jouets d'enfant, j'ai essayé de me changer les idées. Mais j'y pensais tout le temps, à sa petite tête gentille, avec le canon du fusil à côté, sa petite bouche de clown qui aurait pu dire « Oh là là !» juste « Oh là là !» Pendant la nuit, je n'ai trouvé qu'une seule chose à faire. Une chose qui diminuait ma peur et se voyait sur mon visage. Une chose qui me donnait envie de grandir. Le matin, quand il m'a vu arriver dans la cuisine, mon père a eu l'air d'accord avec moi. Je lui ai dit que je voulais faire quelque chose. Il a dit très bien. Il avait l'air fier de moi. J'ai dit, je fais quelque chose avec quoi je suis d'accord. T'en as un deuxième ? Il a demandé en désignant mon visage. En souriant, triomphant, j'ai foncé dans ma chambre. J'ai trouvé un autre nez rouge. On est sortis tous les deux comme ça. Dans la rue, les gens nous regardaient avec des sourires qui me plaisaient. Ils ont pigé tout de suite, les gens. Les photos du clown otage étaient à la une de tous les journaux. Je marchais avec mon père. On se tenait bien droit. J'essayais de mettre mes sourcils en accent circonflexe. J'avais mis le clown otage dans mon cœur, bien au chaud, pour ne pas l'abandonner, ne pas l'oublier. J'avais bien frotté mes chaussures pour retrouver le rouge d'origine. Quand on s'est embrassé à l'arrêt de bus, mon père m'a dit « Qu'est-ce que tu fais si on te demande de l'enlever ?» J'ai rigolé parce que le nez lui faisait une voix nasillarde et j'ai répondu que je ne l'enlèverais pas. Il a dit « Alors moi non plus. Je resterai comme ça au boulot toute la journée. » Et puis il m'a regardé. Il a souri en disant qu'il allait sûrement avoir encore des mots à signer dans le carnet de correspondance, mais que pour une fois, il le fera avec fierté. Et puis on est parti, chacun de notre côté, avec notre nez rouge. Voilà.
C'est très beau aussi, hein. Vraiment. Oui. Mmh, ah ben, écoutez, moi, j'adore les histoires, donc c'est deux belles histoires.
Voilà.
Vraiment. Bah écoutez, merci à vous.
Et bah, puis merci surtout, beaucoup pour votre écoute.
Surtout merci à la Lune Rousse. Hein.
Oui, bah oui, oui. Je pense qu'on peut dire merci à la Lune Rousse. C'est une belle initiative.
Voilà. Ah ouais, c'est coup de fil. Vraiment une très belle compagnie et qui justement invite des artistes. Des artistes extraordinaires.
Merci, merci beaucoup. Je suis content d'avoir partagé ces textes avec vous. Terrifiant pour moi, mais voilà, je ne sais pas comment vous les avez pris.
Ah ben, très bien, hein, vraiment, oh ouais. À refaire.
Bon, merci beaucoup. On va laisser, moi je vais laisser la place à un autre coup de téléphone avec Aline. Voilà, ça sera, je passe le relais au prochain coup de téléphone. Je vous souhaite une bonne soirée.
Et merci. Puis,
à très bientôt. Merci beaucoup à vous
merci.
Pour votre écoute.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.